Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. C'est une équation terrible pour les jeunes entrant sur le marché du travail. Ils sont nombreux, mais les offres, elles, se font rares avec la crise. Résultat, les salaires de départ sont en baisse de plus de 20%, chiffre édifiant révélé sur Europe 1 par l'association des DRH. Les épidémiologistes ont beau être alarmistes concernant la progression des variants, le gouvernement maintient qu'un reconfinement peut être évité. Car pour l'heure, si les données de l'épidémie restent inquiétantes, elles ne sont pas non plus dramatiques, nous dira notre spécialiste santé. Le mea culpa de la présidente de la Commission européenne. Oui, dit-elle, nous avons bien sous-estimé les difficultés liées à la production des vaccins. C'est l'un des derniers grands textes du quinquennat d'Emmanuel Macron. La loi climat a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres et le compte n'y est pas, dénoncent les écologistes. Dans ce journal également, Marine Le Pen devant la justice pour avoir diffusé sur Internet des photos d'exactions de l'État islamique. Prudence sur les routes après la neige, le verglas. En Bretagne, on s'organise pour que les chauffeurs routiers bloqués ne passent pas une deuxième nuit au bord de la route. Et puis le foot, 32e de finale de la Coupe de France avec un bon Stade Malherbe de Caen face à un médiocre PSG, Julien Froment.
Ouais, exactement, c'est la pause des 0-0 pour le moment dans ce 32e de finale entre Parisiens et Canet.
La météo, elle est toujours polaire. 17 départements de l'Est sont en vigilance orange, principalement pour grand froid et neige verglas. Demain, la journée sera lumineuse, mais encore plus glaciale, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en recul, moins 0,36% à 5670 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hamot de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Le centre hospitalier de Dax dans les Landes a été la cible d'une importante attaque informatique et ce n'est pas le premier. Les hackers cibleraient-ils les hôpitaux en raison du Covid? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité Philippe Trochot, partenaire en charge de la cybercriminalité chez le cabinet PwC. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis le début de la semaine sur Europe 1, vous le savez, on se mobilise pour aider les jeunes frappés de plein fouet par la crise sanitaire et économique. Soutien matériel, psychologique, conseils pratiques et cette carte que vous pouvez consulter sur notre site internet, carte interactive qui recense déjà près de 20 000 offres d'emploi. Mais qu'en est-il des salaires? La crise est-elle en train de rogner les fiches de paie des jeunes? C'est en tout cas le constat qu'a fait tout à l'heure votre invité dans La France Bouge, Emmanuel Duteil.
Comme il y a moins d'offres proposées et beaucoup plus de jeunes candidats qui cherchent un poste, les premiers salaires se sont effondrés ces derniers mois, selon Benoît Serre, vice-président de la NDRH.
Par exemple, quelqu'un qui sortait d'un bac plus 5, alors je prends cet exemple-là, mais on peut prendre d'ailleurs, qui se disait, en gros, à mon école, on sort de là à 30 000 par an, hein. On va lui faire 23-24.
Alors, j'ai fait le calcul pour vous, hein, ça représente plus de 20% de baisse de salaire. Du coup, certains retards de leur entrée sur le marché du travail, ça concerne surtout ceux qui ont déjà des diplômes et qui se réinscrivent pour une année, hein, pour avoir par exemple une formation en plus. En tout cas, pour Benoît Serre, il faut en ce moment se préparer à devoir changer de région.
C'est un sujet pas évident pour les jeunes. On a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas trop quitter la zone où ils se trouvent, au moins au début. Ça, je pense que c'est une erreur d'analyse.
Ce qui est certain, c'est que les entreprises attendent d'avoir un petit peu plus de visibilité sur l'économie pour se remettre vraiment à embaucher.
Merci Emmanuel Duteil. On vous retrouve dans quelques minutes pour l'interview écho. Énième conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. Il s'agissait une fois de plus d'évaluer la situation et l'efficacité des mesures restrictives. Conclusion, on peut encore éviter un reconfinement selon le porte-parole du gouvernement. Écoutez.
Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. Ce chemin n'est pas large, mais il existe. Et nous aurions tort de ne pas tout mettre en œuvre pour y parvenir. La France a beau se trouver dans une situation enviable par rapport à un certain nombre de ses voisins européens, la situation est fragile.
Situation fragile, mais reconfinement encore évitable. Anne Le Gall, vous êtes notre spécialiste santé. On vient d'entendre l'optimisme prudent du porte-parole du gouvernement. Discours qui contraste fortement avec ce que disent les spécialistes alarmés par la progression des variants. Alors que faut-il comprendre, Anne, que notre situation n'est pas bonne, mais pas si mauvaise finalement ?
Voilà, c'est vrai que pour l'instant, effectivement, malgré la présence des trois variants, le R effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par un cas positif, reste autour de 1. Cela veut dire que les gestes barrières, le télétravail, le couvre-feu suffisent pour le moment à contrôler ces variants minoritaires, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, l'Irlande, le Portugal ou l'Allemagne, qui ont dû confiner. Alors, il est vrai que la pression hospitalière est forte avec 60% d'occupation en réanimation, que le variant britannique gagne du terrain. Il concerne aujourd'hui 20% des contaminations au niveau national, et l'on sait que ce variant britannique plus contagieux va prendre le dessus, a priori dans la première quinzaine de mars, selon les projections, et c'est pour cela qu'il est malheureusement trop tôt pour se réjouir, a précisé Gabriel Attal. D'ailleurs, si l'incidence de l'épidémie baisse dans une cinquantaine de départements, elle continue d'augmenter dans une vingtaine d'autres, et l'impact de la vaccination n'est pas encore effectif. Donc, tout le pari maintenant, c'est que l'on puisse garder le plus longtemps possible le contrôle sur les variants sud-africains et brésiliens, qui au total représente 2,3% des contaminations.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Et le meilleur moyen de garder le contrôle sur ces variants, c'est bien évidemment de respecter les gestes barrières, mais aussi de vacciner massivement. Or, le problème, vous le connaissez, on manque de doses. Les arrivages dans les centres de vaccination se font au compte-gouttes et c'est pareil dans toute l'Europe. D'où le mea culpa ce matin de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avoue avoir mal anticipé la question de la production des vaccins.
Nous étions très concentrés sur le développement du vaccin. Nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. La science a dépassé l'industrie. La production des nouveaux vaccins est un processus très complexe. Il n'est simplement pas possible de mettre en place une site de production du jour au lendemain. Ces vaccins intègrent jusqu'à 400 composants. Et la production implique jusqu'à 100 entreprises. C'est pourquoi que nous avons créé une task force pour accroître la production industrielle des vaccins sous l'autorité de Thierry Breton, notre commissaire en charge du marché intérieur. L'objectif est de détecter les problèmes et d'aider à les résoudre. L'industrie doit s'adapter au rythme de la science.
La présidente de la Commission européenne au micro européen d'Isabelle Horry. L'Union européenne où le seuil symbolique des 500 000 morts du Covid a été franchi. 3 000 victimes supplémentaires chaque jour en moyenne. Mais il y a du mieux dans les pays les plus touchés par l'épidémie. Le nombre de nouveaux cas a sensiblement baissé ces derniers jours en Espagne et en Allemagne. Pas suffisamment toutefois aux yeux d'Angela Merkel qui a prolongé les restrictions jusqu'au 7 mars. Et puis en France, Olivier Véran a confirmé l'arrivée demain des premiers tests salivaires moins invasifs que les écouvillons dans le nez. La Haute Autorité de Santé doit préciser demain matin les modalités techniques de l'utilisation de ces nouveaux tests qui, d'après nos informations, seront déployés en priorité dans les écoles.
Écoutez le monde changer. Europe Soir, le 22-22-30.
Comment verdir l'économie sans la pénaliser ? Comment convertir les Français à l'écologie sans les brusquer ? C'est tout l'enjeu du projet de loi climat qui a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. 69 mesures issues en partie des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, en partie. Et c'est bien ça le problème. Les écologistes dénoncent un texte au rabais manquant d'ambition. Écologistes Claudia Bertram qui ont des arguments.
Oui, alors d'un côté, l'exécutif défend un texte de rupture. Ce projet de loi, c'est 69 articles avec des mesures comme la fin des passoires énergétiques d'ici 2028, l'interdiction de certains vols intérieurs quand il existe une alternative de moins de 2h30 en train, ou encore la fin de la vente des véhicules thermiques les plus émetteurs en 2030. Le texte reprend ainsi un tiers des propositions de la Convention citoyenne. Insuffisant, dénoncent écologistes et ONG, ce qui est reproché au texte, son manque d'ambition et des mesures édulcorées par rapport à ce que proposaient les membres de la Convention. Par exemple, la création d'un crime d'écocide devenu un délit ou bien l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants qui se limite à l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Écoutez le député XLREM Mathieu Orphelin.
Le compte n'y est pas du tout. Le gouvernement et le président, ils ont fait leur marché, ils ont trié, ils ont enlevé les mesures les plus impactantes. La loi permettra d'économiser, si tout va bien, 13 millions de tonnes de CO2 en 2030, là où il faudrait plutôt 50 ou 60 millions de tonnes de CO2 à cette échéance-là. L'essentiel, c'est comment on peut améliorer les actions et l'ambition de cette loi.
Présenté comme l'un des derniers grands textes du quinquennat, le projet de loi arrivera à l'Assemblée en mars pour des débats qui s'annoncent déjà musclés.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. La politique qui s'est invitée au tribunal. Marine Le Pen et Gilbert Collard étaient aujourd'hui devant la justice pour avoir diffusé en 2015 sur Twitter des photos d'exaction de Daesh. C'était quelques semaines après les attentats du 13 novembre. Alors pourquoi avoir relayé ces horreurs? Eh bien pour faire taire ceux qui, à l'époque, avaient comparé les objectifs du Rassemblement national à ceux de l'État islamique. Et voilà ce qu'a réaffirmé aujourd'hui Marine Le Pen, Chloé Triomphe.
Oui, en fait, Marine Le Pen avait demandé à son community manager qui gère son compte Twitter de prendre 3 photos sur Google montrant des exactions de Daesh et d'y accoler ce commentaire « Daesh, c'est ça », dans le but de dénoncer cette comparaison qu'elle estime indigne entre son parti et l'organisation terroriste. Elle l'a répété aujourd'hui à la barre, elle n'a jamais pensé que cela pourrait être pénalement répréhensible pour elle. Il en va de sa liberté d'expression et c'est très remonté qu'elle s'est exprimée à la barre et largement devant les micros.
Oh bah écoutez, ça s'est très bien passé. Je crois que nous étions confrontés là à un détournement sauvage, si je puis me permettre, de procédure. Et que le parquet s'est, je le pense, déshonoré pour tenter d'empêcher la liberté d'expression et presque la légitime défense dans cette affaire de l'élu que je suis. Moi, je veux bien quand le procureur dit que ça n'est pas parce qu'on poursuit quelqu'un qu'on est obligé de poursuivre tout le monde, mais quand on ne poursuit que Marine Le Pen, ça commence quand même à devenir suspect.
L'article de loi utilisé ici pour les poursuites concerne la protection des mineurs et le fait de diffuser des images à caractère violent. Marine Le Pen et ses avocats ont ironisé en disant que dans ce cas-là, il fallait poursuivre beaucoup de monde. Le parquet a requis 5000 euros d'amende.
Chloé Trion du service police-justice d'Europe 1, le jugement a été mis en délibéré au 4 mai. Le président du Centre national du cinéma, Dominique Boutonnat, en garde à vue pour des soupçons d'agression sexuelle et tentative de viol. Et c'est son filleul de 22 ans qui a déposé plainte début octobre pour des faits datant de l'été dernier. Dominique Boutonnat conteste ces accusations. À l'étranger, Joe Biden hausse le ton sur la Birmanie. Le président américain appelle ce soir à la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi, renversée par un putsch de l'armée au début du mois. Joe Biden annonce également des sanctions financières contre la junte birmane. Et puis l'Iran a de nouveau violé ses engagements de l'accord sur le nucléaire. Téhéran a débuté la production d'uranium métal, s'alarme l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette forme d'uranium peut être utilisée comme composant pour des armes nucléaires. Allez, on revient en France où, depuis hier soir, ça ne vous aura pas échappé, un montant blanc est venu recouvrir la moitié nord du pays. Quelques centimètres de neige qui ont ravi les enfants, mais désespéré les automobilistes. Conditions de circulation difficiles aujourd'hui, de la Bretagne à l'Alsace, en passant par l'Île-de-France. Certains chauffeurs routiers ont été pris au piège par ces chutes de neige et ont passé la nuit dernière à l'arrêt, comme sur la Nationale 12 en Ille-et-Vilaine, près de Rennes. Les transporteurs ont depuis pu repartir cet après-midi, mais sur place, on se tient prêt à accueillir d'autres chauffeurs qui pourraient être contraints de passer la nuit au bord de la route, Charles Guyard.
Oui, en effet, du moins pour ceux qui n'auraient pas de cabine adaptée pour dormir en période de grand froid. Pour ces chauffeurs, un plan de sauvegarde communal a déjà été activé la nuit dernière pour se mettre au chaud dans la salle des fêtes de Pleumeloc, baptisée, et ses circonstances, l'Étincelle. C'est à hauteur de cette petite ville qui borde la Nationale 12 qu'une aire de stockage des poids lourds avait été mise en place dès mardi soir jusqu'en début d'après-midi aujourd'hui. Une zone qui pourrait de nouveau être utilisée dans la nuit ou demain matin si la situation météo venait à se dégrader, ce qui, vu les températures attendues, n'est pas du tout exclu. Du coup, la maire Anne-Sophie Pétru se tient prête. C'est elle qui coordonne les opérations avec la Croix-Rouge et c'est parfois le système D qui prime.
On a réquisitionné les tapis de gymnastique des enfants pour essayer déjà de rendre les choses un peu plus confortables. Et puis ensuite, écoutez, on est allé chercher des duvets. On annonce des températures négatives de l'ordre de moins 6, moins 7 degrés, ce qui va générer un épisode de verglas intense. Et par conséquent, les services de la préfecture mettent tout en œuvre pour éviter des problèmes. Dangereuse.
Pour l'heure, les camions de plus de 7,5 tonnes peuvent donc encore circuler, mais ils doivent baisser leur vitesse de 20 km/h et ont interdiction absolue de dépasser. A noter que demain, la région a d'ores et déjà annulé le ramassage scolaire dans toute la Bretagne, et ce, pour le troisième jour consécutif.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. On va faire un point sur la météo dans un instant, mais avant les sports, le foot et ce coup de théâtre au FC Nantes, Raymond Domenech n'est plus l'entraîneur des Canaries. Il a été limogé après seulement 7 matchs pour aucune victoire. L'ancien sélectionneur des Bleus a appris la nouvelle alors qu'il est à l'isolement suite à deux tests Covid aux résultats contradictoires. Domenech n'était donc pas sur le banc de touche cet après-midi pour assister à la défaite des Canaries, battue 4-2 face à Lens en Coupe de France. Dans les autres rencontres de ces 32e de finale, Toulouse s'est imposé 2-0 face à Bordeaux, score identique pour Marseille qui a battu Auxerre. L'AS Monaco s'est défait de Grenoble 1-0. Quant au PSG, eh bien ça se joue en ce moment au stade Michel Dornano à Caen, où vous retrouve Julien Froment. Les Parisiens qui viennent d'ouvrir le score.
Exactement, 52 minutes de jeu, donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain face au stade Malherbe de Caen. Le but, il est signé de l'Italien Moïskine après un excellent service du capitaine du soir, à savoir Neymar, qui a donc adressé un excellent ballon. Alors que là, il y a peut-être une opportunité finalement. Faute sifflée contre le Parisien. Donc je vous disais, oui, Neymar sur le côté gauche qui allait centrer ras du poteau devant la surface de réparation. Et donc Kane qui a surgi pour permettre à cette équipe du PSG de mener 1-0. Et pour le moment, Paris qui monte quand même pas grand-chose, il faut bien l'admettre, face à une valeureuse équipe du SM Caen. 1-0 donc pour Paris face à Caen après 53 minutes de jeu.
Merci beaucoup Julien Froment. Julien, qu'on retrouvera plus longuement dans quelques minutes à la fin de cette édition. La météo hivernale et glaciale, 17 départements de l'Est de la France restent en vigilance orange, neige, verglas et grand froid. Anissa Haddadi, le temps demain sera en revanche beaucoup, beaucoup plus calme.
Ah oui, ça fait du bien. Une journée de répit, d'accalmie avec un temps très lumineux, Julien, demain sur une grande partie du pays. Attention aux nombreux nuages bas au lever du jour. Nous aurons sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, le Limousin, des brouillards très épais. Et puis de la vallée du Rhône jusqu'au territoire de Belfort, là aussi, la visibilité pourrait être réduite. Soyez prudents. Partout ailleurs, le temps est ensoleillé demain matin, je vous le disais. Dans la journée, au fil des heures, de temps en temps, le ciel sera voilé très légèrement. Et en fait, c'est par l'ouest, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, c'est là que le ciel sera très couvert demain après-midi, avec le retour de la neige sur la Bretagne et quelques petites gouttes sur les côtes atlantiques. Sur toute la moitié nord, le vent d'est se lève et va souffler demain entre le Grand Est et la Bretagne. Les températures, alors là, ça ne bouge pas, ça descend même encore. Hein, toujours très froid demain, avec moins 13 à Épinal, moins 12 à Strasbourg, moins 11 à Belfort, moins 8 pour Paris, moins 7 à Lille, moins 4 à Nantes et Dunkerque, moins 2 à La Rochelle et Lyon, 2 petits degrés pour Aurillac, 5 à Bordeaux et 9 pour Ajaccio. Au meilleur de la journée, toujours une très grande amplitude entre le nord et le sud, puisque nous aurons moins 2 degrés à Belfort et 17 à Bastia en pleine journée.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'Interview Echo. Le centre hospitalier de Dax dans les Landes a été la cible d'une importante attaque informatique et ce n'est pas le premier hôpital. Les hackers cibleraient-ils les hôpitaux en raison du Covid? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité. A tout de suite sur Europe 1. 22h19 sur Europe 1, merci de votre fidélité. C'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street prolonge sa pause, toujours proche de ses sommets historiques.
Oui, on souffle à Wall Street comme hier. Hein. Le Dow Jones plus 0,2%, une petite hausse, 31 438 points. Des prises de bénéfices sur le Nasdaq, moins 0,25%, l'indice Nasdaq à 13 972 points. Les marchés sont toujours dans l'attente du très gros plan de relance budgétaire promis par Joe Biden, qui est toujours à l'étude au Congrès américain. Dans cette attente, donc, il y a de petites baisses sur les valeurs, les grosses valeurs de technologie en particulier. Apple, moins 0,4%, $135,39. Microsoft, moins 0,4%. Amazon, moins 0,5%. Pas grand-chose. Petite hausse pour Google, plus 0,5%. Il y a quand même une baisse un petit peu plus forte. C'est Tesla qui repère 5%, mais qui était bien monté à $804. La vedette du jour, c'est Twitter. On en parlait hier soir, avec un bénéfice net de $222 millions au dernier trimestre 2020. Twitter monte fortement de 13% aujourd'hui, $67.77. Le pétrole campe sur ses positions. On est autour des $58.50 le baril WTI, après 8 séances de rebond quand même. Exxon prend 1%, $51.18 ce soir. Et l'euro reste assez stable, autour des 1,21-1,21,30 face au dollar.
Retour en France, où la Bourse de Paris a aussi reperdu un peu de terrain en clôture.
Même scénario, un marché assez calme, en baisse de 0,36%, petite baisse, 5670 points sur le CAC 40. Quelques grosses valeurs ont soufflé. Des prises de bénéfices sur Ubisoft, moins 7,5%, 77,38€, alors que les objectifs 2020-2021 ont été un petit peu resserrés sur l'exercice en cours, resserrés vers le bas pour Ubisoft. Puis STMicro aussi a reperdu 2% avec Olot et Air Liquide, 134,75€ Air Liquide, malgré des comptes de bonne facture, comme toujours. On a aussi Valeo qui cède 1% ce soir avec Alten et Sodexo.
Exception du jour, la Société Générale qui a progressé après l'annonce de ses résultats.
Oui, 8e séance de hausse quand même pour la Société Générale qui grimpe de 2,8%, 17,90€. Le groupe bancaire a réalisé des profits en baisse de 28% au quatrième trimestre qui sont quand même meilleurs que prévu. 470 millions d'euros alors que les prévisions se situaient plutôt entre 300 et 350 millions. Ça explique cette hausse de la Société Générale de 2,8%, de nouveau 17,90€ ce soir à la clôture. Les autres places financières sont à la baisse, légère, moins 0,5 sur le DAX à Francfort, moins 0,38% à Bruxelles, moins 0,4 à Madrid, moins 0,15% à Milan. Le CAC 40 en baisse donc de 0,36%, 5670 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de Boursier.com et à demain Didier. 22h et bientôt 22 minutes sur Europe 1. On passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Philippe Trouchot.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes partenaire en charge de la cybersécurité chez PwC. PwC, c'est un des principaux cabinets de conseil au monde. Si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est pour parler de la cyberattaque qui a touché l'hôpital de Dax. Alors, on avait déjà entendu d'autres cyberattaques contre des hôpitaux. Pourquoi les hôpitaux sont ciblés, d'après vous, en ce moment, Philippe Trouchot ?
Alors, les hôpitaux sont certainement ciblés en ce moment parce qu'ils sont bien évidemment sous le feu de l'actualité et que la crise Covid a finalement mis en lumière l'exceptionnel cynisme du crime organisé. Autrement dit, puisqu'on a encore plus besoin que d'habitude des hôpitaux, ils sont absolument vitaux pour notre pays et donc le crime organisé pense que il sera plus facile, dans les circonstances qui sont les nôtres, d'obtenir des rançons des hôpitaux.
Parce que plus facile dans le sens où peut-être qu'en ce moment, on est tellement tous à la tâche dans les hôpitaux qu'on n'a peut-être pas pensé à mettre le dernier pare-feu à la mode pour éviter par exemple une cyberattaque ?
Oui, par exemple, alors après les hôpitaux sont souvent des organisations assez décentralisées où il y a beaucoup de systèmes d'information, on met de plus en plus de technologies. Ils sont encore une fois tout à fait vitaux pour finalement sortir de cette crise. Et pour donner une statistique, on a observé plus 500% d'attaques sur les hôpitaux depuis le début de la crise Covid.
Là, vous parlez des hôpitaux en France ou des hôpitaux dans le monde ?
Alors là, je parlais à la fois pour la France et pour le monde entier. En fait, la statistique est quasiment équivalente partout dans le monde. En fait.
Ça augmente tant parce qu'on partait de pas grand-chose où déjà les hôpitaux étaient ciblés, et à ce moment-là, c'est assez impressionnant comme progression.
Ça augmente parce qu'encore une fois, on a tous constaté que les hôpitaux étaient absolument critiques dans l'instant qui est le nôtre, et que donc les directions des hôpitaux ou les gouvernements ont plus de capacité à payer des rançons dans ce contexte. Alors, je suis surtout pas en train de vous dire que je partage cette appréciation, mais voilà.
S'ils font ça, c'est qu'ils pensent que obligatoirement on va payer. Là aussi, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre solution.
Alors non. Il y a d'autres solutions. On peut d'abord avoir des sauvegardes. On peut gérer correctement une crise cyber. Mais le crime organisé, au travers de ça, il cherche aussi à mettre l'emphase sur l'opinion publique. Il y a une histoire en Allemagne où on a vu qu'on avait eu un premier décès dans un hôpital qui était lié à une attaque cyber. Donc finalement, ça fait naître une pression de l'opinion publique sur il faut mieux protéger les hôpitaux et puis surtout, le cas échéant, il faut payer les rançons et je suis surtout pas en train de le recommander parce que derrière, on peut avoir des malades qui décèdent malheureusement.
Mais qu'est-ce que cherchent ces cybercriminels ? Ils cherchent de l'argent ou ils cherchent des données de santé ?
Là, spécifiquement, ils cherchent de l'argent, en fait. Hein. Donc, ils veulent se faire payer une rançon, ils bloquent le système et ils acceptent de vous le débloquer contre une rançon.
Alors, si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, hein, Philippe Trouchot, je rappelle que vous êtes partenaire en charge de la cybersécurité chez PwC, c'est que justement, vous conseillez les entreprises pour éviter de faire en sorte que ça ne leur arrive pas. Dans le cadre d'un hôpital, on va prendre l'exemple de l'hôpital de Dax, hein, qui est loin d'être le plus gros hôpital du pays, bien évidemment. Comment on fait, tout simplement, pour se préparer à une telle attaque.
La première chose à faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle une certaine hygiène informatique, c'est-à-dire de mettre à jour ces systèmes. Alors, c'est toujours un terme un peu barbare, mais les systèmes que l'on utilise, ils ont besoin d'être mis à jour régulièrement parce que sinon, ils sont vulnérables aux attaques. Donc, il y a un certain nombre de règles de base, telles que celles que je viens de citer, mettre à jour les systèmes, les protéger par des mots de passe relativement robustes. 99,9% des attaques réussissent parce que simplement les systèmes ne sont pas à jour. Donc il y a un certain nombre d'éléments de base dans la sécurité qu'on doit respecter dans les hôpitaux comme dans n'importe quelle entreprise en fait.
Est-ce que l'administration publique française fait moins attention peut-être qu'une entreprise privée ? On sait que les entreprises dépensent aujourd'hui des sommes colossales pour se protéger. Est-ce qu'il y a une petite faillite de l'État français ou d'autres États ?
Alors, je suis désolé, je vais prendre le contre-pied de votre question. J'observe exactement l'inverse. Je pense que l'administration, le travail législatif qui a été fait sur la cybersécurité en France, c'est probablement un des plus poussés qu'on ait au monde. Mais maintenant, il faut voir que ce crime organisé, ou considérer que ce crime organisé, s'enracine dans nos sociétés parce qu'on a besoin d'être plus efficace dans les structures de soins comme partout ailleurs. Donc on acquiert beaucoup de matériel digital et on a encore une fois besoin de le mettre à jour. Donc c'est l'exposition de nos sociétés au sens large qui nous rend plus vulnérables et malheureusement une mue du crime organisé vers la délinquance, de la délinquance physique vers la cyberdélinquance.
Mais ça ne peut que se renforcer puisqu'on va aller de plus en plus vers des objets connectés. La mise en place par exemple de la 5G doit permettre de connecter toujours mieux et plus d'appareils. Donc il va y avoir un nombre exponentiel d'attaques.
Il y aura plus d'attaques, mais donc la 5G comme les objets connectés vont peut-être parfois nous sauver la vie. Donc on pourra pas retarder ce progrès qui est la digitalisation de nos sociétés, même si il y a certainement des débats d'éthique qu'on pourrait avoir sur le sujet. Et il faut qu'on prenne conscience qu'en fait on va devoir vivre avec cette délinquance. Et que pour pouvoir parer cette délinquance, il faut respecter des règles de base en termes d'hygiène informatique. Et comme vous l'avez souligné dans une de vos questions, il faut aussi sensibiliser les acteurs d'un écosystème à respecter des règles de bonne pratique de cybersécurité.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. Philippe Trouchot, je rappelle que vous êtes partenaire en charge de la cybersécurité chez PwC, un des plus grands cabinets au monde pour le conseil aux entreprises. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Emmanuel, que l'on retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag au programme émission consacrée aux applications de rencontres. Comment fonctionnent-elles alors que l'on ne peut plus ou presque plus se voir? Eh bien, c'est la question qu'Emmanuel et Elisabeth poseront à leur invitée, la directrice France de Mythique. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Libération, violence sexuelle, Sciences Po dans la tourmente, titre Le Quotidien. La démission hier de Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po Paris, qui avait fermé les yeux sur les accusations d'inceste visant Olivier Duhamel, relance le débat sur l'entre-soi et l'opacité de la prestigieuse institution universitaire, écrit Libé. Mais si le cœur parisien du réacteur Sciences Po est touché à sa tête, c'est l'ensemble du réseau des IEP qui doit faire face à des révélations de violences sexuelles, rappelle Dove Alphon dans son édito. Un hashtag sur les réseaux sociaux résume bien l'ampleur de la crise, hashtag science port. Après le climat, allons-nous avoir une convention citoyenne sur l'euthanasie, s'interroge l'opinion. C'est en tout cas la suggestion du député Roland Lescure, par ailleurs porte-parole de La République En Marche. Une idée formulée alors qu'un appel à ouvrir le débat sur l'euthanasie rencontre un grand succès dans les rangs de la majorité. Affaire donc à suivre. On termine avec le Figaro Echo qui nous apprend que le champion de l'éolien, le Danois Vestas, va construire une éolienne en mer géante et je pèse mes mots. Écoutez bien, le mastodonte aura un diamètre de rotor de 236 mètres et une surface de pale de plus de 43 000 mètres carrés couvrant dans les airs la superficie de 6 terrains de football. Et justement le foot, on va terminer la Coupe de France direction le stade Michel Dornano où le PSG est en train de dominer quand Julien Froment.
Exactement, la 67e minute de jeu, donc 1-0 pour Paris face à Caen, but signé Moïse Kean à la 49e minute de jeu sur un service de Neymar, capitaine d'un soir et capitaine abandonné, enfin qui a abandonné plutôt son équipe parce que Neymar est sorti sur blessure, vraisemblablement touché aux adducteurs. Le Brésilien, c'est pas une bonne nouvelle pour le PSG puisqu'on le rappelle, mardi prochain, Paris affrontera le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. C'est Kylian Mbappé qui l'a remplacé là il y a quelques instants. On espère que ça ne soit pas trop grave pour la star brésilienne du Paris Saint-Germain, Paris qui se dirige pour le moment lentement mais sûrement vers les 16e de finale de la Coupe de France puisque Paris mène donc 1-0 face à Caen après 68 minutes de jeu.
Merci beaucoup Julien Froment en direct de Caen pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ma foi, ça va. C'est une bonne soirée, un peu frisquette, mais c'est une bonne soirée.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la Libre Antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et puis on vous retrouve tout à l'heure pour le flash d'ici une petite demi-heure, Julien.
À tout à l'heure.